Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse a quitté l'île de Calypso sur un radeau. Poséidon a tenté de le noyer et il se retrouve en pleine mer, nu, en train de nager, accroché à un rondin de bois et à un bout de tissu. C'est ainsi qu'il échoue sur l'île des Phéaciens. La princesse Nausicaa le découvre et l'aide. Mais elle doit trouver un moyen pour que ses parents acceptent de l'accueillir au palais. Ulysse est accueilli avec les honneurs par le roi des Phéaciens. La princesse Nausicaa est tombée amoureuse de lui. Au cours d'un banquet, un naïade chante les aventures des héros de la guerre de Troie. Ses souvenirs douloureux font pleurer Ulysse. Depuis plusieurs nuits, Ulysse n'a presque pas dormi. Tour à tour ballotté par les flots, accroché à son radeau, puis conteur de sa propre histoire à la cour du roi. Dès qu'il est sur le pont du bateau, il se promet de se tenir éveillé jusqu'à l'arrivée. Mais c'est au-dessus de ses forces. Bercé par le roulis, il tombe dans un profond sommeil. Son histoire a déjà fait le tour de l'île des Phéaciens. Les marins, émus et impressionnés devant les 20 années de combat de cet homme, le laissent se reposer. Lorsqu'ils arrivent, en vue d'Ithaque, ils décident même de le porter délicatement et de le déposer dans une crique. Puis ils lèvent l'ancre et repartent chez eux. Pendant qu'il dort, une ombre s'approche d'Ulysse. C'est celle d'une vieille femme vêtue de noir, ou Mariaca, car c'est elle bien sûr, regarde attentivement l'homme endormi, puis murmure pour elle-même. Son visage a suffisamment vieilli, ses cheveux et sa barbe ont blanchi. Personne ne devrait le reconnaître au premier coup d'œil. Mais les habits que le roi des Phéaciens lui a donnés sont trop beaux, beaucoup trop riches. Aussitôt ces mots prononcés, Ulysse se retrouve vêtu de loques. « Ah, voilà, c'est bien mieux ainsi, » dit Mariaca. Dans ses rêves, Ulysse entend la voix d'Athéna, qui lui donne le même conseil qu'Agamemnon. « Ne révèle pas tout de suite qui tu es, Ulysse, c'est plus prudent. » Un coup de langue râpeuse sur sa joue réveille Ulysse en sursaut. Il se retrouve nez à nez avec un gros cochon. L'animal a entrepris de lui lécher la figure. Ulysse se relève d'un bond, il se frotte les yeux et regarde autour de lui. Mais où est-il donc? Il ne reconnaît rien. Est-il arrivé chez lui? Curieusement, cette terre lui semble étrangère, ou bien est-ce lui qui est devenu un étranger pour elle? Et ce cochon, mais d'où sort-il? Le gros animal s'éloigne de quelques pas en grognant. Un jeune berger, allongé dans l'herbe sous un olivier, semble le surveiller négligemment. Ulysse l'interpelle. « Hé là, garçon, sais-tu où nous sommes ?» Le berger se redresse. « Évidemment, vous êtes sur la belle île d'Ithaque. Mais vous êtes qui d'abord? Et vous arrivez d'où ?» Cette réponse remplit Ulysse d'une joie débordante. Ainsi, il y est parvenu. Il est de retour chez lui. Les paroles de sa déesse protectrice, entendues dans son sommeil, lui reviennent en mémoire. Ne pas se démasquer tout de suite. Il est satisfait que le berger ne sache pas qui il est. C'est alors qu'il s'aperçoit que ses riches habits ont été remplacés par des guenilles. « Je suis un marchand crétois, » invente-t-il. « J'ai été kidnappé par des pirates, puis vendu comme esclave. » Le bateau sur lequel je me trouvais vient de faire naufrage après un long périple sur les mers et je suis à la recherche d'un lieu hospitalier. Le jeune berger se lève et lui propose de le suivre. Il travaille pour un porcher respectable, affirme-t-il. Cet homme est bon et l'accueillera certainement sous son toit. Avant, il travaillait pour le roi Ulysse, raconte le berger. Mais vu la situation, il a préféré quitter le palais. Ulysse ne pose aucune question. Ils arrivent justement chez le maître du jeune homme qu'il reconnaît aussitôt. « Eumée, mon vieux porcher Eumée, oh, il a moins changé que moi. » Eumée s'empresse d'accueillir cet étranger avec courtoisie. Ulysse continue à se faire passer pour un marchand crétois victime d'un naufrage. Il s'installe avec joie autour du feu. Un à un, des bergers rentrent et se réunissent près de la cheminée, et bientôt la porcherie résonne de leur voix. Le son guttural de leur accent émeut profondément Ulysse. Il y a si longtemps que personne ne lui a parlé dans sa vraie langue maternelle, celle qu'il entendait et pratiquait depuis le berceau. Eumée finit par interroger Ulysse sur ses mésaventures. Alors, sans se faire prier, le roi d'Ithaque se lance dans un long récit imaginaire. Rien n'est vrai, mais tout est inspiré de ses aventures réelles. Il prétend être parti à la guerre de Troie sur un bateau crétois, puis il raconte ses escales au retour dans de lointains pays. Il n'épargne aucune tempête, aucun monstre marin, pas un pirate, pas un récif. Eumée l'écoute poliment. Mais quelque chose semble le travailler. Il finit par demander « Et n'as-tu jamais croisé Ulysse, mon valeureux roi, dans tes aventures ?» Les autres ricanent sautement. « En voilà un qui ne m'a pas oublié, » se dit Ulysse. « Mais pour les autres, qui suis-je, à part un fantôme ?» Il répond « Ah, mais si, bonhomme, je l'ai croisé, ton roi. Et d'ailleurs, récemment, et il est encore vivant. » Les ricanements des hommes se transforment en éclats de rire. À cet instant, l'orage qui menace se décide à exploser. Un violent coup de tonnerre retentit et un jeune homme fait son entrée dans la pièce. Eumée se précipite à sa rencontre. Il lui embrasse les mains avec respect en disant « Oh, comme je suis heureux de ton retour !» Mais de qui s'agit-il ? Le jeune homme qui vient d'entrer chez Eumée est vêtu d'un lourd manteau, luisant de pluie. Il se déshabille, secoue sa chevelure blonde trempée et s'approche rapidement du feu. Puis il salue gaiement l'assemblée. « Moi aussi, je suis heureux de te retrouver, Eumée. Et vous aussi, mes bergers, mes compagnons. » Il découvre alors à moitié dans l'ombre l'étranger qui vient d'être accueilli. « Et bonjour à toi, étranger. » « Sois le bienvenu. » Le jeune homme se comporte comme s'il était le maître des lieux. Ulysse n'ose y croire. Mais tout lui indique que c'est son fils, Télémaque, qui vient d'entrer. Comme il est beau, comme il est grand. Ulysse lui répond. « Bonjour, jeune homme. Ton père doit être heureux et fier d'avoir un fils comme toi. » Télémaque grimace sans répondre. Eumée, embarrassé par les paroles maladroites de son invité, l'interrompt précipitamment. « Valeureux Télémaque, cet homme prétend être crétois. Il vient d'échapper à des pirates qu'il avait pris en esclavage. Au moment où tu es entré, il me confiait justement avoir récemment croisé ton père vivant. » Ulysse remarque l'absence de réaction de son fils. « Cette nouvelle devrait le faire bondir de joie, » se dit-il. Au lieu de cela, Télémaque pousse un soupir. « Je reviens de Sparte. On me l'a annoncé aussi. Mais Ulysse est prisonnier d'une nymphe sur une île lointaine. » Il se tait un instant, observant les flammes bleues qui dansent dans le feu. Il poursuit d'un ton amer. « Et d'ailleurs, s'il revenait, que pourrait-il faire désormais ?» Eumée hoche la tête d'un air navré. Ces voyous sont toujours là. » Télémaque s'est assis. Il est si jeune encore, c'est presque un enfant. Sa voix est si triste lorsqu'il conclut. « Nous ne serons jamais débarrassés de ces ivrognes, violents et bagarreurs qui ont pris le pouvoir. » Le désespoir de Télémaque émeut Ulysse. Dans la pièce, quelques femmes s'activent pour servir de la viande rôtie, du vin doux au jeune homme. Parmi elles, Ulysse reconnaît avec étonnement la vieille Oumariaca. Mais comment est-elle arrivée ici? Son intuition, le jour de leur rencontre, était donc la bonne. Cette femme qui le protège depuis si longtemps ne peut être qu'une déesse. Oumariaca s'approche discrètement d'Ulysse. Elle lui murmure à l'oreille. Il est temps de te faire reconnaître, Ulysse. Retourne dans ton palais déguisé en mendiant. Ton fils t'aidera à reprendre ta place, à chasser les prétendants. Dehors, on entend le tonnerre gronder. Mais l'orage semble s'éloigner. Eumée, peux-tu aller prévenir ma mère de mon retour, s'il te plaît ? Demande Télémaque. Je me rendrai au palais dès demain. Le porcher va sortir lorsque le fils d'Ulysse le rattrape. Et mon grand-père, Laerte, comment va-t-il ? Eumée hésite avant de répondre. En vérité, très mal. Depuis que tu es parti en mer à la recherche de ton père, Laerte refuse de se nourrir. On dit qu'il n'attend plus qu'une chose, ton retour ou la mort. Une vague de tendresse apparaît sur le visage de Télémaque. Eumée, je t'en prie, cours d'abord le plus vite que tu peux le prévenir de mon retour. Il n'y a pas une minute à perdre. Le porcher n'attend pas que la pluie cesse, ni même l'arrivée d'Aurore aux doigts de rose. Il sort dans la nuit porter les messages de Télémaque. Dès l'arrivée du jeune homme, les bergers ont cessé de rire ou de chahuter. Certains se sont éclipsés pour rejoindre leur cabane, d'autres se sont endormis sur des paillasses à même le sol. Bientôt, seuls, Ulysse et son fils demeurent éveillés. Télémaque s'approche de l'étranger. « Vous avez vu mon père, paraît-il ? Comment va-t-il ? » Mais Ulysse devine qu'une autre question lui brûle les lèvres, une question bien plus importante, et qu'il n'ose pas la formuler par peur de la réponse. Alors il répond sans détour. Il n'a cessé de me parler de toi, Télémaque. Il n'a cessé de penser à toi durant ces 20 années. Il t'aime. Le visage du jeune homme s'éclaire brusquement et des larmes lui montent aux yeux. Ulysse, tout aussi bouleversé, comprend combien son absence a été pesante pour l'enfant. Il murmure. Tu lui as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué. Télémaque relève la tête. Il scrute le visage de l'étranger en face de lui. Ulysse répète « Tu m'as tellement manqué, mon fils. » Et il attire maladroitement la tête du jeune homme contre sa poitrine. Mais Télémaque est méfiant. « Que dis-tu là ? Et qui me prouve que tu es bien mon père ?» Ulysse sourit. « Lorsque j'ai eu 12 ans, Laerte, mon père, m'a offert un petit poirier. » C'est notre secret à tous les deux. Seul mon ami Mentor était au courant. Alors, donne-moi des nouvelles de mon arbre. Télémaque éclate en sanglots et se jette dans les bras de son père. Le chemin monte raide au milieu des oliviers. À chaque pas, Ulysse sent une énergie nouvelle lui pénétrer le corps, une force venue de sa terre. Comme il est déguisé en mendiant, il fait semblant de s'appuyer sur un bâton tordu pour avancer. Et il doit ralentir sa marche. Chaque caillou, chaque brin d'herbe, chaque touffe odorante, tout le paysage parle à son âme. Il marche à côté de son enfance, le cœur en fête. Il a tant rêvé à ce retour au pays. Pourtant, il n'est pas question de retour triomphal. Ici, chez lui, il n'est pas le bienvenu pour tous. Il a décidé de rester vêtu en mendiant et de se faire accompagner au palais par Eumée, tandis que Télémaque ira saluer sa mère. Le porcher croit toujours avoir affaire à un naufragé. À l'approche de la cité, près d'une fontaine, Ulysse et Eumée croisent 3 hommes qui semblent faire le guet. Ceux-ci n'accordent aucune attention aux mendiants et aux porchers, qui font une pause pour se désaltérer. L'un dit « Je ne comprends pas pourquoi ce matin son navire est arrivé au port sans lui. » Un autre répond « Nous avions pourtant installé des guetteurs partout sur les côtes. Comment a-t-il pu débarquer sans se faire repérer ?» Le troisième maugrait « Il ne perd rien pour attendre. Dès que ce freluquet mettra les pieds au palais, nous lui réglerons son compte. Ainsi en ont décidé tous les prétendants. Il ne nous échappera pas bien longtemps. » Ulysse frémit. Pas de doute, ces hommes tendent une embuscade à son fils. Il ne doit pas perdre de temps pour retourner la situation à son avantage. Eumée aussi a tout entendu. Il faut prévenir Télémaque. Il ferait mieux d'être prudent en allant voir sa mère. Lorsqu'ils arrivent aux portes de la ville, Ulysse prend sans hésiter la direction du palais. Un peu étonné, Eumée lui demande « Es-tu sûr de n'être jamais venu ici? Comment connais-tu le chemin ?» Ulysse s'en veut de sa négligence. Il répond « Cette haute bâtisse dont on aperçoit de loin les murailles ne peut être que le palais de ton roi. J'ai deviné, voilà tout. » Eumée semble satisfait par sa réponse. Bientôt, Ulysse est devant la porte de sa maison. Sous ses guenilles, avec son visage sale et ridé, personne ne peut le reconnaître. Personne ? Quelqu'un pourtant sait immédiatement qui il est. Là, devant le porche du palais, allongé sur un tas de fumier, un vieux chien semble abandonné de tous. Il a le pelage clairsemé et infesté de bêtes. Il est maigre, comme ces animaux mal nourris qui ne survivent qu'en chapardant de ci, de là. En l'apercevant, Ulysse est pris de pitié. Oh, quelle misère ! À qui est ce chien ? Il devait être beau et fort, et pourquoi personne ne s'en soucie ? Eumée pousse un profond soupir. Oui, tu as raison, étranger. C'était un beau chien. Il appartenait à mon maître, qui est parti alors que c'était encore un jeune chiot. Un de ces petits chiens habitués à courir après le gibier, à filer comme le vent derrière un cerf ou une biche. Argos ! Ulysse vient de comprendre qu'il se trouve en face d'Argos, son propre chien. Après le départ d'Ulysse, Télémaque se plaisait à jouer avec lui. Il s'en est occupé ainsi plusieurs années, raconte Eumée. Et puis un jour, Télémaque, adolescent, a disparu du palais. Le chien est resté là, oublié de tous. Même les servantes ont cessé de s'en occuper. Maintenant, il est vieux et aveugle. En regardant son chien malade, Ulysse a du mal à retenir ses larmes. Il se penche vers lui, le caresse doucement sous le museau. C'est alors qu'Argos fait un énorme effort pour se remettre sur ses pattes arrière. Il remue la queue faiblement, pousse un petit gémissement de joie. Le chien vient de reconnaître son maître. Ulysse est bouleversé. Argos ne l'a pas oublié. Il sait qui il est malgré son déguisement de mendiant. Ne perdons pas de temps, entrons, dit Eumée. Ulysse accorde alors une dernière caresse à Argos. Je reviendrai, mon chien, je reviendrai. Mais dès que son maître a fait trois pas, Argos se recouche. Il pose sa vieille tête aveugle sur ses pattes et il meurt. Il est en paix, son maître est de retour. La gorge nouée, Ulysse entre chez lui, et ce qu'il voit l'horrifie. Tout est sale, délabré. Dans chaque pièce, des débris de vaisselle cassés, des restes de nourriture jonchent le sol. Il pénètre dans la grande salle dont il était si fier autrefois. Elle est pleine de monde. Des hommes rient, crient, festoient. Un brouhaha de fêtards enivrés. Dans un coin de la pièce, Ulysse aperçoit les armes des prétendants, entassées contre un mur. Il jette un coup d'œil sur les visages des hommes qui occupent ainsi sa maison. Il n'en reconnaît aucun. Tous sont jeunes, parfois presque aussi jeunes que son fils, en tout cas beaucoup plus jeunes que lui. Il a du mal à contenir la rage qui lui monte à la gorge. Mais ces hommes qui occupent sa maison sont nombreux. Il va alors falloir faire preuve d'astuce pour les déloger.